Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Bonjour Michel Blanc.
Bonjour.
Ben vous êtes une icône et vous allez avoir un César qui va faire encore de vous une plus grande icône.
Arrêtez, parce que ça sent la retraite. Donc, non, je suis simplement un comédien qui a eu la chance de rencontrer au lycée des crétins du genre Clavier, Lhermitte, Chazelle.
C'était lycée Pasteur à Neuilly.
Ouais. Enfin, eux étaient de Neuilly, mais moi, je venais d'une banlieue ouvrière. je suis un enfant de Puteaux, moi.
D'accord. Et c'est là où ça a démarré, effectivement. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez personnellement la conviction, l'envie de devenir ce que vous êtes aujourd'hui ?
Ah, l'envie de devenir comédien, oui, je l'ai eu très tôt. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a rapproché de Gérard Jugnot, parce qu'on était en classe ensemble. Donc, il y a eu tout de suite des atomes crochus, et voilà. Et puis après, il m'a présenté aux deux autres qu'il connaissait, qui n'étaient pas dans la même classe que nous, c'est-à-dire Clavier et Lhermitte, et puis Marianne Chazelle, qui était au truc de fille à côté, bon, bref. Et on a commencé très vite à monter des petits spectacles au lycée. Et donc, on avait tous très envie de continuer.
Et donc, vous allez recevoir un César collectif vendredi prochain.
C'est le bruit qui court.
Il court vite. Alors, dans les icônes...
Non, mais ça nous touche beaucoup tous. Hein. J'ai parlé avec mes camarades au téléphone, parce que moi, j'ai tout de suite répondu oui, parce que... Déjà parce que les Césars n'ont pas toujours été extrêmement tendres envers la comédie, ou en tout cas une certaine forme de comédie, alors que finalement, à titre différé, la bande du Splendide reçoive un César. Je trouve ça, moi personnellement, j'aurais pas manqué ça, quoi. Ça, d'une certaine manière, ça me touche.
Ça sera très attendu, c'est un moment très attendu. On attend aussi qu'il y ait une performance à ce moment-là.
Non, mais ça, il n'y en aura pas.
Ah.
Ouais. Nous ne sommes pas des fantaisistes, hein. Vous savez, on n'a pas fait de stand-up jamais.
On a
joué des textes écrits et des pièces.
Mais, j'entends bien.
Si vous espérez nous voir arriver avec un nez de clown, vous allez être déçu.
C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, on attend forcément de vous, et vous le savez bien.
Ben, ce qu'on espère, nous, c'est que... Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour moi, c'est d'ailleurs, j'ai l'impression qu'eux non plus, hein, pour être tout à fait franc, à l'heure où je vous parle. J'essaie d'obtenir des renseignements, mais bon, bref. Mais je sais qu'il doit y avoir une chose projetée avant, peut-être un montage sur notre jolie carrière en tant que Splendide. Hein, c'est pas individuel, parce que on s'est séparés finalement après les mis à part les Bronzés 3, mais pour eux, après le Père Noël, bref. Donc, c'est sur cette période-là, je pense qu'il y aura des documents. Enfin, je ne sais pas, ça va être la surprise.
Si je vous dis Cilla Shilton, vous me dites quoi ?
Ah oui. Ben, je vous dis, c'est notre maître à tous, parce que le féminin est équivoque, notre maîtresse à tous. Mais c'est elle qui nous a... qui nous a appris non pas à jouer, mais à travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner du talent aux gens s'ils n'en ont pas. Par contre, on leur apprend comment travailler un texte. Et puis si, par hasard, ils ont un peu de talent, eh ben voilà, ça se sentira à l'arrivée. Mais elle nous a donné les bases. Et Dieu sait qu'on a travaillé énormément avec elle. C'était très intensif. Pour vous donner un exemple, moi je travaillais, ben, puis des choses très variées, hein, parce qu'elle faisait exprès de nous donner parfois des contre-emplois, parfois des choses qui correspondaient à notre emploi. Moi, en l'occurrence, elle m'a fait travailler le monologue de début de Richard III, de Shakespeare, qui commence par « Donc, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en un glorieux été par ce soleil d'York. » Eh bien, pendant les trois premiers mois, je n'ai pas pu aller au-delà du « donc ».
Ah.
Je faisais l'entrée en scène, je disais « donc », et elle m'arrêtait. « Non, mon petit chou, c'est dans les bottes. Reprenez, vous n'attaquez pas, il faut attaquer. » Ça a duré, j'ai dû arriver à la fin de la phrase au bout de 6 mois. Quoi.
Ah oui, il faut s'accrocher.
Mais on s'est accroché parce qu'on en avait terriblement envie, puis on y croyait, elle nous fascinait.
Oui. C'est une icône pour vous.
Totalement. Puis c'est là que tout s'est vraiment noué, parce qu'avant c'était des envies que tout le monde avait, on faisait des choses ensemble qui étaient parfois un peu potaches. Au lycée, moi j'avais écrit une courte pièce avec des rôles pour deux de mes camarades, deux, trois même d'ailleurs, on était tous dedans, qui s'appelait La concierge est tombée dans l'escalier, et qui était une pochade sans grande envergure ni sans grande prétention. Donc vous voyez, on en était là, et c'est elle qui nous a fait passer à autre chose, quoi, à du vrai théâtre, à des vrais textes, à une véritable exigence.
Bertrand Blier a eu une importance capitale dans votre carrière avec le film Tenue de soirée, qui vous a valu le prix d'interprétation à Cannes, ce qui, j'imagine, change aussi un peu la vie. Vous le mettez aussi sur le au rang d'icône pour vous ?
Oui, totalement. Totalement, parce que, bon, évidemment, la récompense à Cannes, c'est un truc. Moi, j'avais jamais pensé, dans ma période splendide, si j'ose dire. Pour nous, Cannes, c'était un truc auquel on n'aurait jamais droit. Et puis après, j'ai fait des films. Bien chez moi, j'habite chez une copine, Marchalon. Mais tout ça, c'était dans la même catégorie, c'est-à-dire pas cannois, quoi. Et d'un seul coup, j'ai reçu ce coup de téléphone de Bertrand Blier, qui a changé vraiment ma vie professionnelle. Il m'a proposé ce rôle. J'ai lu le scénario en pleurant de rire le soir chez moi, d'une traite. Et le lendemain matin, je l'ai appelé en lui disant « Mais je le fais, mais change pas d'avis. J'espère que tu changeras pas d'avis. » Et voilà. Mais Bertrand m'a appris plusieurs choses. La liberté sur un plateau pour un metteur en scène. Avant, je ne pensais pas qu'un type pouvait travailler autant avec liberté, mais dans le bon sens. Il était capable d'arriver en disant oh, « je sais pas bien comment on va la filmer celle-là, essaye de faire ça, machin ». Bon, bref, je pourrais citer des exemples, mais on n'a pas le temps dans le film. Mais en plus, c'était très gonflé. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur une idée de scénario qui est devenue par la suite un truc que j'ai écrit, et qui s'appelle Grosse Fatigue. Et en fait, il m'a appris l'écriture. Il m'a appris à me libérer de certaines choses dans l'écriture. Et puis il était fascinant, hein, parce qu'il avait une réplique géniale toutes les 30 secondes. C'était incroyable. Donc je lui dois beaucoup. C'est quelqu'un que je place. Il y a deux personnes qui ont joué un très grand rôle. C'est Patrice Lecomte, parce qu'on a été complices dans des comédies, puis ensuite dans Monsieur Hir, ce qui est mon premier rôle vraiment dramatique, c'est grâce à Patrice. Mais Monsieur Hir est venu après que j'ai eu le prix à Cannes, grâce à Bertrand. Donc voilà, ces deux personnalités ont été essentielles dans mon évolution.
N'empêche qu'avec tes conneries, on a bien failli se faire poisser. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les proprios, surtout quand ils sont armés.
C'est de ta faute, t'as qu'à pas me troubler.
Comment ça, c'est de ma faute, il est beau, lui.
Parfaitement, tu me troubles, alors moi je fais des conneries.
Comment ça, je te trouble?
Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire.
Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec?
Quel point de vue?
T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer?
Est-il exact que Woody Allen vous a inspiré le personnage de Jean-Claude Duss ?
Oui. Enfin, le personnage, pas le personnage lui-même. Non, c'est un peu... C'est, le fond est vrai de ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on jouait au café-théâtre, avant la période Les Bronzés et tout ça, quand on jouait au café-théâtre, je voyais mon camarade Junio faire pleurer de rire, Clavier aussi, enfin bon, bref. Et moi, je faisais moyennement rire les gens. J'avais pas trouvé ma forme de comédie. Je construisais des personnages, mais... Il n'y avait pas, j'avais pas trouvé l'étincelle, le truc qui faisait que ça passait, que les gens. Et puis, quand j'ai vu Woody Allen, enfin, pas lui-même, hein, je l'ai jamais rencontré, mais quand j'ai vu le premier film de Woody Allen, on était encore à nos débuts, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est là-dedans que je peux aller. C'est dans cette forme d'humour-là, je ne me compare pas, hein, mais je veux dire, c'est dans cette forme d'humour névrotique, puisque d'humour, je ne sais pas si j'en ai, mais de la névrose aussi. Donc, c'est dans ce genre-là que je peux aller, et c'est des personnages de ce type-là qui me permettront d'accéder, de communiquer avec le public. Et effectivement, quand on a écrit le premier Bronzé, qui s'appelait Amour, coquillage et crustacé au théâtre, m'est venue l'idée de ce personnage, Jean-Claude Duss, qui est un type qui va au club Méditerranée comme tous les autres pour draguer, et comme ça se faisait à l'époque, ce qui n'était pas politiquement correct, mais on ne le savait pas. Et ce pauvre type, ben, non seulement ça marche pas pour lui, mais même à la limite, il s'assied à côté d'une fille pour lui parler, elle le voit pas, quoi. Elle se lève et elle voit quelqu'un d'autre et elle s'en va. Donc voilà, c'est parti de là.
Ouais, d'où la phrase sur un malentendu qui est maintenant une phrase historique.
Bah, ce qui est drôle, c'est que certaines des phrases que je prononce dans Les Bronzés sont reprises et on me les balance mais très souvent.
Ouais. Hein. Vous en avez marre?
Non, au contraire. Ouais. Non. Écoutez, alors, je vais vous dire un truc. Je ne dirais que j'ai marre soit des Bronzés, soit de Jean-Claude Duss. C'est pas un boulet, Jean-Claude Duss, pour moi.
Je comprends rien.
Ça a été mon propulseur, ma fusée de décollage, vous savez.
Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire. Bon.
Quel est votre nom?
Jean-Claude, et vous? C'est Duss, avec un D comme Duss. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
C'est quoi votre prénom?
Fernanda.
Ah, Fernanda, c'est Fernand en français.
Oui. Ah bon. C'est très joli comme prénom.
Ah oui.
Très joli. D'ailleurs, il y a une chanson comme ça. Ça fait « Quand je pense à Fernande, talala,
talala ». Quand je pense à Félicie, là,
ah, là aussi. Ah, on la connaît, que quoi, c'est « Quand je pense à Fernanda, je bande ».
Ah oui, je la connais, cette chanson.
Elle aime Brassens, ça.
Bon, moi, je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais je les aime grands, exagérément musclés. Et surtout le cheveu blanc et en brosse.
Eh ouais, le nazi quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est une espèce de pétasse.
Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Bip, bip.
Comment vivez-vous cette époque?
Bah, le souvenir, alors comment je l'ai vécu à l'époque, c'est autre chose. Hein, parce que on ne se rend pas compte quand on est... on ne se rend pas compte parfois de la chance qu'on a, et donc il y a des moments où on s'est beaucoup amusé, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est bien narré, mais il y avait des moments aussi difficiles parce qu'on a bossé, les gens ne se rendent pas compte, mais on a bossé comme des malades, on a même fait du bâtiment parce que le deuxième café théâtre, on l'a construit pendant 9 mois. Avec marteau piqueur, etc. Et d'ailleurs, Marianne faisait partie des bâtisseuses parce que c'est elle qui faisait du marteau piqueur avec Valérie Mérès qui était avec nous à l'époque au sous-sol du Splendide. Donc c'était 9 mois de travaux pendant lesquels, alors moi je me suis échappé, on s'échappait tous parce qu'on avait 8 jours ou 10 jours de tournage. Donc je suis allé tourner La meilleure façon de marcher. Voilà. Mais on payait un remplaçant pour prendre la pioche et le marteau à notre place. Mais bon, évidemment, on était plein. Enfin, voilà, on avait 23 ans, quoi. Donc, tout est possible. Et puis, on y croit à fond. Donc, j'ai un très bon souvenir. Enfin, j'ai un très bon souvenir de moments très difficiles parfois. Voilà ce que je peux vous dire.
Parmi les acteurs, vous citez souvent Jean Poiret aussi comme référence.
Oui, parce que c'est alors. Il y a l'humour anglo-saxon auquel je suis extrêmement sensible, qu'il soit anglais ou qu'il soit américain, mais c'est pas le même. Mais Woody Allen, c'est typiquement l'humour juif new-yorkais. L'humour anglo-saxon, moi, j'ai adapté des pièces anglaises. Cet humour-là me touche beaucoup, mais nous ne le pratiquons pas en France. Enfin, en tout cas, ceux qui passaient à cette époque-là pour être à juste titre les grands auteurs de pièces de boulevard, pratiquaient ce qu'on appelle l'esprit. En France, on n'a pas d'humour, on a de l'esprit. D'ailleurs, c'était le cas de Sacha Guitry aussi. Hein. Mmh. Et Jean était, mais passer un dîner avec Jean Poiret, c'était un régal constant, parce que l'intelligence des saillies et des répliques, c'était formidable. C'était formidable. Moi, j'ai adoré cet homme.
Quand vous étiez petit, vous avez joué du piano très tôt. Vous vouliez
non pas oui enfin
pas relativement
allez-y,
tôt.
Allez-y.
Non, c'est pas ça.
C'est... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai commencé trop tard par rapport à la passion que j'avais pour la musique. J'ai commencé vraiment à travailler le piano à 13 ans. Et ça, à 13 ans, les petits surdoués qui donnent des concerts maintenant, qui d'ailleurs doivent avoir mon âge, donc c'est plus des petits surdoués, mais eh bien, ils sortent du conservatoire avec un premier prix. Et voilà. Donc, vous voyez, c'était pas possible. Je me suis rendu compte à un certain âge que ça devenait de l'acharnement et que, bah, que j'en joue un peu pour mon plaisir était suffisant.
C'est Bach et Beethoven qui sont vos musiciens préférés ?
Il y en a beaucoup. Brahms. Ouais. J'ai une grande tendresse pour Brahms. Mais si vous voulez que je vous donne mon panthéon.
Oui.
Alors, mais un panthéon où il n'y aurait que deux personnes. y a effectivement, Beethoven est très, très. C'est le dieu. Voilà. Mmh. Pour moi, Beethoven, c'est le dieu. Maintenant, Brahms, c'est mon chouchou. Je sais que ça n'est pas le génie fulgurant de Beethoven, mais bon. Et puis, il y a Bach, parce que Bach a inventé quelque chose dont la suite s'est inspirée. C'est-à-dire que ces gens-là, pas Brahms, mais Bach et Beethoven, sont des gens qui ne créent pas seulement des chefs-d'œuvre au moment où ils les créent, mais ouvrent les horizons de la suite. Et Beethoven, c'est encore plus ça. C'est-à-dire que pour moi, Bach, on a l'impression que c'est un génie qui a trouvé. Et Beethoven, c'est un génie qui cherche et qui n'arrête pas de chercher jusqu'aux dernières. Les dernières œuvres, ce sont des œuvres qui sont encore plus sur la recherche. Et ça, je trouve ça énorme.
Michel Blanc, est-ce que Marguerite Yourcenar fait partie de vos icônes ?
Alors, je ne dirais pas icône, mais de temps en temps, vous avez comme ça, par hasard, à la suite d'un cadeau, ce qui est le cas, vous découvrez un auteur, vous lisez un roman et vous êtes emballé, embarqué. Ce qui était le cas, Marianne Chazelle m'avait offert pour un anniversaire L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar et je suis tombé là-dedans et je me suis mis à lire tout ce que je pouvais, presque tout ce qu'elle avait écrit. Voilà, et c'est vraiment une langue merveilleuse. Alors c'est très classique, hein, c'est une langue. Je veux dire, c'est pas Houellebecq, et puis les propos non plus, mais c'est vraiment, ça a été mon auteur de chevet, comme on dit, sauf que je ne relis pas tellement souvent les choses, mais enfin, ça a été un auteur, je suis resté dedans pendant jusqu'à ce que je ne trouve plus rien de nouveau à lire.
Parmi les icônes, on aurait peut-être pu citer votre grand-père, Breton.
Oui, bah oui, pour moi, comment dire. C'est, vous savez, souvent on vous dit que l'homme, je sais pas quoi, je sais pas quel est le terme on emploie, quel est votre personnage ayant existé, machin. Mais moi, c'est mon grand-père parce que c'est un héros pour moi. Je lui dois beaucoup parce qu'en fait, il était très exigeant. C'était un Breton, donc avec ce caractère extrêmement affirmé. Et avec, c'était pas quelqu'un qui se répandait et qui a souffert. C'est quelqu'un qui a souffert énormément. C'était un héros de guerre. Il s'est fait démolir et descendre en avion en 14. Il avait une, je sais pas, il a vécu avec la moitié des poumons en moins, une demi-cuisse, des balles dans le. Et il a commencé à être malade quand je suis né parce que c'est à la cinquantaine que. Ses poumons en dentelle ont commencé à s'infecter systématiquement, donc c'était quelqu'un de à la fois de fragile et de fort, mais c'est quelqu'un d'admirable.
Et la période actuelle, cette période compliquée, vous la vivez comment ?
Pas très bien. Pas très bien. J'ai cette sensation que je n'aime pas avoir. Alors c'est peut-être un truc de vieux ça, hein, mais cette sensation d'un pays qui ne s'aime plus. Je voudrais pas qu'on s'autodétruise. Je sais pas comment m'expliquer. J'aime beaucoup notre culture, notre civilisation. J'aime beaucoup. Ça veut pas dire que j'en aime pas d'autres, hein, mais j'ai l'impression que les gens. Une partie maintenant des gens n'aime plus autant la France que ça. Et je ne parle pas de problèmes, de ce qu'on nous balance dans les pattes sans arrêt. Ouais, c'est à cause de l'immigration, machin. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça le problème. Là, actuellement, on est en train de s'américaniser, c'est-à-dire qu'on ghettoise. Il y a des groupes qui sont indépendants, qui sont entre eux. Et ça, moi, je l'ai pas vécu quand j'étais plus jeune. Et je sais pas. Peut-être que c'est. Je veux pas être d'un pessimisme total. Mais Je suis assez content finalement. C'est horrible à dire parce que, mais je crois que j'ai connu la France dans la meilleure période possible. C'est-à-dire, j'ai connu, elle avait plus, enfin si, il y avait la guerre d'Algérie quand j'étais môme, c'était pas simple. Mais bon, j'étais à l'écart, j'étais petit. Après, ça a été une période sans guerre, sans. Mais 68 n'avait rien à voir avec les émeutes des Black Blocs. Ça n'avait rien à voir. Et donc c'est. J'ai la sensation d'avoir vécu un moment privilégié dans l'histoire de France. Je préférerais avoir 20 ans maintenant que mes 68 actuels. Mais je ne sais pas si les mômes qui ont 20 ans maintenant, d'abord ils sont confinés, ils sont enfin, ou en tout cas ils n'ont pas une jeunesse aussi libre que celle que nous avons eue. Et je ne sais pas si ils sont aussi heureux qu'on l'a été. Ce que évidemment je déplore, mais c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, mais j'espère que je me trompe.
Vous travaillez sur quoi actuellement?
Sur rien du tout. J'essaie de trouver un médicament contre le Covid, mais ça n'avance pas.
Très bien.
Je suis pas le seul, hein, à non, pas non, y arriver, non, mais bon, voilà.
On compte sur vous plus que jamais.
Bah écoutez, si je pouvais.
J'y compte bien. Merci, Michel.
Mais je vous en prie. Merci.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.